Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Il y a l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec qui demande des excuses formelles au ministre des Transports, François Bonnardel, et à la présidente du secrétariat du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Avec nous, le président de cette association, Marc-André Martin. Monsieur Martin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrisac. Ça va bien?
Qu'est-ce que vous... Bien, vous-même?
Oui, ça va bien. Ça va vite, ça va bien.
Qu'est-ce que vous avez là à vous chicaner avec le ministre des Transports puis Mme Lebel?
Écoutez, là, il y a quelques semaines, on a rendu public des témoignages assermentés de la part des plus hauts dirigeants du ministère des Transports qui évoquaient qu'on avait des enjeux structuraux et de sécurité avec le pont là-bas. On s'est fait traiter d'irresponsables, de brandir des épouvantails au niveau de la sécurité publique. C'était inacceptable. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, on apprend qu'il y a un rapport d'une centaine de pages qui vient confirmer nos craintes, puis en plus de ça, qui vient nous donner raison. Alors là, c'est qui les responsables? Les gens qui sont allés dévoiler la vérité ou bien ceux qui essayent de la cacher?
Ce rapport remonte à quand?
Mais là, ce qu'on en sait, nous, c'est qu'il y a une version préliminaire signée de fin avril et une version finale signée au mois de mai.
OK. Donc, c'est de cette année, là?
Oui, c'est un rapport tout frais là, qu'on a appris dans les nouvelles hier là, de la part de l'équipe d'enquête de Radio-Canada.
Mm-hmm. Puis, comment on détermine là qu'il y a matière à s'inquiéter là, du pont Pierre-Laporte?
Ben, moi, j'ai pas vu le rapport. J'ai uniquement vu ce qui en était divulgué par Radio-Canada. Mais ce qui est inquiétant, ce qui est très inquiétant, c'est la manière qu'on gère nos infrastructures publiques. Comment se fait-il que l'ingénieur qui s'occupe du pont Laporte ait jamais eu copie de ce rapport-là avant hier? Mm-hmm. C'est ça qui est inquiétant. La personne, la principale concernée, il n'avait pas transmis encore le rapport. Ça amène certains enjeux de gestion, mais de sécurité aussi.
Là, on dit que les suspentes du pont, essayez de me décoder ça là, en français, là, les suspentes du pont Pierre-Laporte à Québec sont de moins en moins résistantes et pourraient céder à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je pense pas que ça puisse céder à tout moment, mais ce que le rapport venait, ce que l'article dévoile, puis les suspentes pour monsieur, madame, tout le monde,
ouais.
C'est les câbles verticaux qui s'attachent après les deux gros câbles porteurs. C'est un pont suspendu, okay. Le pont Laporte. Donc, mm-hmm. On a deux gros câbles principaux porteurs et l'ensemble des petites suspentes, c'est des câbles verticaux qui vont se rattacher, qui vont attacher le tablier après le câble porteur. C'est ça qui est question ici. On y est question d'essais sur des suspentes qui auraient été remplacées, puis les essais nous montrent qu'il y a une certaine dégradation, mais les suspentes endommagées sont déjà remplacées. Nous, je vais vous expliquer quelque chose.
Mm-hmm.
Puis, à notre sens, c'est quasiment ça le plus gros scandale. C'est, écoutez, on est en conflit de travail, on a négocié des services essentiels, on a dû aller au tribunal pour ils nous ont demandé de fournir des ingénieurs pour remplacer ces fameuses suspentes. On est allé, on a dit oui, on va fournir toute l'équipe. Envoyer toute l'équipe, toute l'équipe était prête à débuter des travaux le mois passé pour remplacer ces fameuses suspentes-là en urgence, ceux qui étaient ciblés. Eh bien, ça l'a bloqué au niveau des hautes instances du ministère des Transports. Écoutez, pour avoir droit d'octroyer des contrats en situation d'urgence, il faut démontrer l'urgence. C'est quand même assez simple comme principe. Et
Ouais. C'est
bloqué. Les hautes instances du ministère des Transports considèrent que c'est pas suffisamment urgent. Fait que moi, j'ai fourni des ingénieurs pour débuter des travaux qui pourraient être débutés, mais ils ne sont pas débutés parce que ça bloque au niveau administratif, aux plus hautes instances du ministère des Transports.
OK, mais attendez, là. Comment le ministère des Transports peut déclarer que la situation n'est pas urgente s'il y a un rapport qui dit qu'elle l'est?
Il parle des deux côtés de la bouche. Là. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'interne, mais c'est juste type. On a un lanceur d'alerte qui est obligé de couler un rapport au journal. C'est asymptomatique du fait que les gens à l'interne n'ont pas confiance. N'ont pas confiance à la gestion des hauts fonctionnaires. C'est ça la problématique.
Là, M. Martin, je lisais aussi les câbles des 160 suspentes du pont Pierre-Laporte sont vérifiés lors des inspections générales du pont, mais que certaines parties étaient inaccessibles, donc il est impossible de connaître leur état réel sans les enlever. Est-ce que vous craignez pour la sécurité du pont Pierre-Laporte?
S'il y avait un enjeu immédiat de sécurité, il y aurait déjà des voies de fermer. Moi, ce que j'en sais du dossier, c'est qu'il y a des experts qui proviennent de grosses firmes aux États-Unis, des experts en ponts sur câble, les ponts suspendus, qui doivent remettre un rapport en juillet. Donc, moi, je suis pas expert en ponts sur câble. Je lis comme vous les choses, mais je suis ingénieur quand même de profession, ingénieur civil dans la structure. Donc, c'est sûr que ça m'inquiète de lire des choses de même. Mais la première étape, lorsqu'il y a des enjeux, c'est qu'ils ferment des voies. Il n'y a pas de voie de fermée. Donc, tant qu'on voit pas des cônes oranges apparaître sur le pont pour amputer des voies, c'est que tout va bien. On l'espère.
Moi, j'essaie de... Tu sais, il faut toujours se méfier avec vous autres, les syndicats, M. Martin, vous le savez, là. Tu sais, vous sortez, puis là, vous plantez le gouvernement, puis là, on ne sait plus, des fois, si... Je remets pas votre éthique en doute, là, mais on ne sait plus, tu sais, si vous êtes en pression syndicale ou si vous voulez vraiment alerter la population pour s'assurer que tout soit en règle.
Je vais être honnête avec vous, l'équipe d'enquête de Radio-Canada, ça coquine jamais ou se colle jamais après des trucs puis des coulages syndicales. Ils sont assez clairs là-dessus. Là. C'est une équipe avec assez de rigueur. Nous, présentement, c'est pour ça que je fais comme une distinction entre notre conflit de travail et ce qui se passe au pont Laporte. Là. Mais nous, on a tenu des informations privilégiées à cause de notre conflit de travail. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des déclarations assermentées pour nous forcer à fournir des ingénieurs. Donc, ils sont obligés de nous prouver pourquoi, à cause de notre conflit de travail et de la grève, je devrais fournir des services essentiels en lien avec le pont et de leur propre aveu. Des hauts fonctionnaires qui sont juste en dessous du ministre. Là. Avant le ministre, le sous-ministre, mais les hauts directeurs généraux, ils ont dit à l'unisson qu'il y avait des problèmes, des enjeux de sécurité avec le réseau, plus particulièrement avec le pont Laporte. Donc, pour en venir à faire un témoignage assermenté qui dit ça, faut qu'on ait une base, faut qu'il y ait un rapport, faut qu'il y ait un avis d'ingénieur. Et on comprend au travers des branches que c'est sous ce rapport-là, c'est avec ce rapport-là qu'ils ont écrit les affidavits, qu'ils ont écrit les témoignages assermentés pour sonner l'alarme. C'est la seule chose qu'on a faite, nous, c'est de rendre ça public.
OK, j'essaie de comprendre. Là. Je lis le texte de Radio-Canada. On dit, à la demande du ministère des Transports, les 5 suspentes retirées du pont Pierre-Laporte, puis remplacées au cours des 2 dernières années, ont été testées dans les laboratoires de Polytechnique Montréal. Là, on dit que 2 des 5 suspentes ont été remplacées en urgence l'automne dernier et un des câbles avait perdu 57 % de sa résistance d'origine. Il ne lui restait donc que 43 % de capacité. Ça, c'est sur 5 suspentes. Il y en a 160. Comment on sait que les 155 autres sont en bon état?
Je vais faire attention du point de vue technique de pas trop m'avancer parce que moi, je suis pas expert en pont sur câble. Mais les suspentes qui ont été remplacées, tu sais, d'un point de vue d'ingénierie, tu sais, il y a des parties qui vieillissent plus mal que les autres. Il y a des câbles qui vont vieillir plus vite que les autres. Donc, ceux-là, présentement, sont ciblés pour des remplacements, mais ils ont déjà remplacé quelques-uns en urgence, justement. C'est ça qui s'est passé, mais je peux pas me prononcer pour le reste. Je suis pas un spécialiste en pont sur câble.
Est-ce que je vous prends au dépourvu, là, M. Martin, là, mais on a aussi fermé des voies sur le pont Papineau-Leblanc, là, qui fait le lien entre Montréal et Laval à la fin de la rue Papineau, évidemment. Est-ce que ça, c'est un pont qui est devenu aussi dangereux? Et comme là, tout à coup, on dit aux camionneurs de ne pas emprunter ce pont-là. On les envoie sur le pont Viau, puis sur l'Henrique Martin, sur la 15. Tu dis, comment ça se fait qu'on arrive en urgence puis on ferme des ponts aux camions, là, tout à coup?
Ben, écoutez, c'est un problème asymptomatique. Depuis la commission Charbonneau, ça fait des années qu'on revendique que ça prend plus d'ingénieurs chevronnés. Il faut aller au-devant, il faut avoir une vision à long terme. Puis au ministère, c'est valeur, mais c'est une vision on gère à petite semaine. Quand on aura un problème, on le réparera. Le parc d'infrastructures vieillit plus vite que ce qu'on peut restaurer. Ça va être de même de mal en pis. Et quand on ferme une voie sur le pont, c'est le premier symptôme, c'est la première étape pour alléger les charges.
Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Quand on ferme une voie sur un pont, là, Marc-André Martin, là, vous êtes ingénieur, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête?
Ben, la première, tout dépendant, il y a beaucoup de causes pour qu'on ferme une voie, mais lorsqu'on ferme une voie, à cause qu'on a trouvé un défaut structurel sur un pont, c'est pour éviter que des charges lourdes transitent dessus, puis c'est pour alléger les charges vives, les charges de trafic sur le pont.
Ça, je comprends ça.
Bon,
mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structure est vraiment endommagée?
c'est qu'ils ont trouvé un défaut, ils ont trouvé quelque chose sur un élément principal qui fonctionne pas bien, qui mérite qu'on doit le réparer en urgence, tant aussi longtemps qu'on... Pour ouvrir une voie, il faut nécessairement avoir mis un banc de support, réparer le défaut. C'est que ça a un enjeu au niveau structural, puis ça pourrait créer une déformation permanente,
mais
un effondrement
technique. Comment ça se fait qu'on... un effondrement technique, comment se fait qu'on se rend là? Comment ça se fait qu'on supervise pas régulièrement les ponts comme ça, là, un pont qui est aussi utilisé que celui Papineau-Leblanc?
On faisait plus de travaux à l'époque avec moins d'ingénieurs. La paperasserie fait en sorte aujourd'hui la lourdeur administrative, la difficulté d'avoir des ingénieurs chevronnés à l'interne, la difficulté d'attraction des gens d'expérience fait en sorte qu'il y a moins de projets qui se font. On répare moins vite que le réseau se dégrade. C'est ça la cause.
Quand vous dites la paperasse, quand vous parlez de paperasserie, là, c'est, vous voulez dire quoi exactement? Nous, on n'est pas à l'intérieur, on sait pas ce que ça veut dire.
C'est un peu... On a entendu, tout le monde a connu le laisser-passer A38
chez la maison des fous, là. Ouais.
Bon, ben, ça ressemble un peu à ça à cette heure. C'est que il y a tellement de paperasseries, à chaque fois que le vérificateur général émettait une recommandation pour qu'on donne un exemple pour avoir plus de vérifications à l'interne pour éviter de la collusion, au lieu de renforcer de l'expertise puis mettre des ingénieurs chevronnés qui vont voir le tout, on va rajouter une procédure. On va rajouter une directive. C'est de la procédurite à pu finir. C'est de la gestion de formulaires, de papier. C'est épouvantable. Aujourd'hui, là, je vous dis, à partir du jour 1 qu'on décide qu'on doit remplacer un pont, ça prend 7 ans avant de voir la première pelletée de terre.
Même si c'est urgent.
Quand c'est urgent, on va plus vite. On essaie de couper sur tout ce qu'on peut au niveau des autorisations pour aller plus rapidement. Mais c'est tellement long et pénible le processus de tous les points de contrôle, les processus pour faire évoluer un projet au ministère, que ça prend entre 5 et 7 ans, tout dépendant de la grosseur du projet, mais en moyenne, à cette heure, c'est rendu ça. C'est qu'on octroie des contrats par-dessus contrat, puis à chaque fois, à cette heure qu'on veut octroyer un contrat, il y a différentes couches administratives de vérification puis d'analyse qui doivent être faites. Fait qu'on finit plus d'analyser, de vérifier, puis de regarder qu'est-ce qu'on a donné en sous-traitance. C'est plus long, à cette heure, donner un contrat en sous-traitance que le faire à l'interne. Avant, on faisait ça pour sauver du temps. Ouais. Là, maintenant, avant, on disait, si je dis à un ingénieur, tu vas faire un projet à l'interne, il va avoir 90% de son temps à ce trait-là. Alors que si je dis, surveille la sous-traitance, ben, il va pouvoir surveiller 3 projets, ça va aller plus vite. Ouais. Aujourd'hui, le ratio est 1-1.
OK. Avant qu'on signe, M. Martin, deux affaires. Est-ce qu'il y a un ménage à faire au ministère des Transports? On disait que oui à la fin de la commission Charbonneau. De toute évidence, il n'a pas été fait.
Écoutez, nous, là, nos revendications, là, on est encore en conflit de travail à cause de ça. On a besoin de renforcer l'expertise, on a besoin d'être attractif, on a besoin de plus d'autonomie professionnelle. C'est pas normal que lanceur d'alerte soit obligé de couler des journaux, des histoires, de rapports en lien avec des ponts. C'est pas normal. C'est qu'on a un problème. Il y a une perte de confiance au niveau des hautes autorités. C'est clairement ça que c'est atypique, là, ce genre d'action-là.
Et est-ce que le gouvernement négocie de mauvaise foi?
On a deux recours présentement qui vont se plaider dans les prochaines semaines pour négociation de mauvaise foi. Là, ce qui achoppe, il manque 10 millions de masse salariale, M. Dutrisac. Puis, présentement, l'Association des grands constructeurs nous dit que ça coûte 10 millions de pénalités au gouvernement par jour de grève. Donc, Sonia Lebel, présentement, est mieux payer des pénalités de 10 millions par jour à des entrepreneurs plutôt que de décaisser 10 millions pour payer mieux ses ingénieurs qui vérifient, qui sont en rempart contre la collusion, tu sais, qui vont gérer le pont La Porte. C'est ça,
ben, voyons donc. 10 millions par année ou 10 millions par jour. C'est ça le choix.
Exactement.
Bon, ben écoutez, on va suivre ça. Qu'est-ce que vous allez faire si M. Bonnardel, Mme Lebel ne s'excuse pas?
Ouais, écoutez, je vais rien faire. Je vais continuer mon petit train. Moi, je vais continuer à négocier. Okay. Puis je vais essayer de faire avancer mes dossiers.
Parfait. On se laisse là-dessus. Marc-André Martin, qui est président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Merci. Bonne chance.
Bonne journée.